Le chevalier aux épines et Nem ne dissimulèrent point leur stupéfaction. Ils auraient juré que le retour à Ver aurait nécessité une journée entière. Or, le soleil atteignait à peine son zénith. « Tiens, serions-nous déjà à destination ?» lâcha le chevalier au coucou. « Eh, le jeu en valait la chandelle !» se réjouit le chevalier au jet. « Ce fort ennemi offre un beau défi. Chauffer une telle résidence doit être tout sauf une évidence. » repartit son compagnon sur un ton léger, puis, retrouvant son sérieux, il observa à mi-voix « Je crois sentir un pouvoir en dormition au fond de cette folie de pierre. » Sortant de la réserve qu'il manifestait d'ordinaire en présence de seigneurs d'un haut rang, Nem grommela « La folie que je vois très bien dans cette affaire, c'est celle de 4 ou 5 casse-coups qui veulent se lancer à l'assaut de cette forteresse. » « L'entreprise est ambitieuse, » convint le chevalier au pis. « Mais il serait encore plus insensé d'user une armée nombreuse au siège d'un château si bien fortifié. » Toutefois, plutôt que se lancer bille en tête à l'attaque de ces murs, les elfes eux-mêmes décidèrent de tenir un conseil de guerre. La compagnie recula d'une portée d'arc pour rester à couvert et mit pied à terre. Il était temps de se concerter sur un plan d'action. Les aventureux n'ayant jamais rencontré Odéarde de Maginois, ils demandèrent au sire de Vaumacel d'en brosser le portrait, ce qu'il accepta de faire de mauvaise grâce. « Quand vous avez rencontré la dernière fois, avait-elle déjà une allure nécrosée ?» s'enquit le chevalier au pis. Cette question heurta Edan. « Croyez-vous vraiment que j'aurais devisé avec la dame si elle avait eu l'air d'une morte ?» se récria-t-il. Puis, en faisant un effort pour baisser le ton, il développa. « Madame la Duchesse m'est apparue encore très éprouvée par sa blessure. Elle était amaigrie et faible. Elle peinait parfois à reprendre son souffle. Cependant, elle m'a reçue parée et parfumée, plus séduisante que jamais. Sa conversation et sa réflexion étaient aussi brillantes qu'à l'ordinaire. À l'évidence, elle n'avait rien perdu de son esprit et se montrait déterminée à recouvrer ses forces, aussi bien que ses droits. Le chevalier aux épines laissa ses paroles en suspens comme troublé par un souvenir. « Et cette conversation pleine d'éclat, vous aura-t-elle charmé durant la journée ou au cours de la nuit ?» Alors que le sire de Vaumacel hésitait à répondre, comme gagné par le doute, Nem se substitua à lui. « Monseigneur Edan a été convoqué en pleine nuit, » marmonna-t-il. Nous avons été réveillés par 2 chevaliers de l'hôtel de la Duchesse et nous en avons été plutôt surpris. J'ajouterai à cela que Monseigneur avait l'air malade quand il est revenu de cet entretien et que sa dernière blessure s'était rouverte. Je devine sans peine ce que vous pensez. J'ai aussitôt eu des soupçons semblables aux vôtres. Mais la leçon que j'en tire est à l'opposé de vos conclusions. Si la Duchesse est vraiment devenue celle que nous croyons, alors... lui donner l'assaut dans ce château est pure démence. Le chevalier au pis posa ses prunelles d'ambre sur le vieil écuyer avec une expression amène, comme s'il respectait chez lui une forme de sagesse. C'est parce que le danger est terrible qu'il doit être anéanti, soutint-il avec calme. On a dit la dame morte. La voici de retour. L'ordre des Dolans occupe la place forte. On n'y accorde audience que nuitamment. La nécromancie royale est à l'œuvre dans cette résurrection. La dame n'est pas spectrale. Elle a tout d'une strige en cours d'éclosion. Plus nous tardons à agir, plus elle gagne en force et malignité. Il faut la faire périr avant qu'elle ait tout d'une calamité. Le sire de Vaumacel reçut ces paroles avec un masque livide. Les intentions de la licandière avaient pourtant été des plus claires, mais la brutalité du propos tenu par le chevalier au pis parut lui dessiller une nouvelle fois le regard. « Comment fait-on périr quelqu'un qui est déjà mort ?» grinça Nem. « On le détruit à nouveau, en le bannissant du monde des vivants. » « Et comment procède-t-on ? On lui jette l'anathème, on le frappe d'interdit ? Avez-vous autorité pour ces exorcismes ?»« Nous aurons le lourd fardeau de frapper en tant que simple combattant. » « Alors à quoi cela rime-t-il ? À quoi bon férir ce qui peut être ranimé ? Si nous ne pouvons tuer le nécromant qui a commis ce blasphème, alors nous serons forcés de régler moins élégamment le problème. Il nous faudra prélever le cœur et la tête de la revenante, dans le but de les brûler hors de portée du funeste hiérophante. Si ce rite est accompli, la morte ne pourra être rappelée. » Les mâchoires crispées, le sire de Vaumacel se passa la main sur les lèvres, comme s'il luttait pour s'empêcher de dire le fond de sa pensée. Ce geste encouragea son vieil écuyer à revenir à la charge. « Pourriez-vous vraiment démembrer la dame dont vous avez juré de rétablir l'honneur ? » s'indigna-t-il. Pour toute réponse, son maître lui lança un regard noir. « Dans toute cette entreprise, insista Nem, je ne vois que folie furieuse, péril de mort et infamie. Mais il faut s'acquitter de ce qui doit être fait, répliqua Edan d'une voix blanche. Le chevalier au coucou approuva d'un air distrait. Il avait levé sa figure sculpturale pour admirer les feuillages qui les ombrageaient et paraissait se désintéresser un peu du débat. Mais il n'en ajouta pas moins sur le ton de la conversation. « Rien ne nous oblige à le faire, mais l'existence ne vaut d'être vécue que si l'on se plaît à la risquer quand l'exige la nécessité. Toute opinion contraire est coq-fabu. » Le grand seigneur elfe avait parlé avec une forme de détachement, mais sa voix respirait également une telle assurance que l'écuyer garda ses objections par-devers lui. Partant du principe que leur décision était arrêtée, les quatre chevaliers abordèrent le détail de l'action. Les aventureux, voulant en apprendre davantage sur le charme que leur avait laissé la dame des futaies bleues pour approcher du rempart, Edan leur montra la petite fiole qui lui avait été confiée. Comme les elfes trouvaient la contenance du flacon insuffisante pour permettre à tout un chacun d'y boire, ne serait-ce qu'une gorgée, le chevalier aux épines s'empressa de les détromper. « Il ne s'agit pas d'une potion ou d'un filtre, » leur apprit-il. « La dame m'a recommandé d'ouvrir ce récipient et de le vider au sol quand nous commencerons notre approche. Elle ne m'a fourni aucun détail sur la nature du charme. Elle m'a juste assuré qu'il nous permettrait de ne point être vu. » Se posait également la question de la poterne cachée. Les aventureux ne manifestaient guère d'étonnement à s'en remettre à un chat, comme s'ils connaissaient très bien celui qui leur avait été attribué pour guide. En revanche, quoiqu'il n'émît plus de commentaires sur ce volet du plan, Nem se prit le front dans la main dans une posture des plus éloquentes. Quant au sire de Vaumacel, il ne parvenait pas non plus à dissimuler ses doutes sur le sujet. Il considérait d'un œil sombre le gros matou qui, toujours perché dans un équilibre instable sur le chargement d'un ronc-sein, lui rendait un regard assez chafouin. Il faut bien admettre que Mirabilis lui-même n'avait pas vraiment l'air de savoir ce qu'il venait faire dans cette périlleuse histoire, et n'avait pas plus confiance en ses moyens que le sire de Vaumacel et son écuyer. Non seulement les assaillants n'auraient su situer la porte dérobée, mais par la force des choses, ils ignoraient également où elle déboucherait à l'intérieur de l'enceinte. Ce qui, au cours d'un coup de main contre n'importe quel château, aurait posé de sérieuses difficultés, accroissait le problème en raison de l'énormité de Vaire et de son implantation sur plusieurs îles. Parmi les aventureux du bois Oiselet, seul Sir Amelin était brièvement entré à Vaire, sans toutefois aller plus loin que la cour du castel du Fêtre. Le chevalier Osépine et ses gens avaient une meilleure connaissance de la place. Malgré la répugnance qu'il éprouvait à renseigner ses compagnons, le sire de Vaumacel leur décrivit l'organisation générale du château. En raison de sa proximité avec la rive, il craignait que leur entrée dérobée ne se situât dans la tour Malestrue. Eddan affirma sans ménagement que dans ce cas de figure, leur entreprise serait probablement vouée à l'échec. Le châtelet d'entrée était non seulement bien gardé, mais il faudrait franchir le second pont en Dodane pour accéder au castel du Fêtre, le corps principal de la forteresse où se trouvaient les appartements de la duchesse. Même si les assaillants se rendaient maîtres des défenseurs de la tour Malestrue, les sergents du castel du Fêtre seraient probablement mis en alerte et baisseraient leur herse. Il fallait donc espérer que la porte secrète fût située dans la muraille d'un des deux autres sites. Le chevalier de Vaumacel jugeait peu probable qu'elle ouvrît dans l'enceinte du castel d'Ingremance. C'était l'île la plus inaccessible, au milieu du cours de la rivière, en un endroit où les rapides qui se précipitaient vers le gouffre empêchaient le flot d'être navigable. Il paraissait donc improbable que les bâtisseurs de verre y eussent ouvert un accès qui n'aurait eu aucun débouché. Restait la troisième possibilité, qui était la plus favorable pour leur assaut. Que la poterne dérobée fût ménagée sur l'île centrale, dans les fortifications du castel du Fêtre, qui flanquait directement l'hôtel seigneurial. C'était dans cette aile palatiale de la forteresse qu'était sise la chambre du Vespellion où Odéhard avait reçu Eddan. Le sire de Vaumacel n'embellit toutefois point le tableau. Même si les attaquants parvenaient à franchir la courtine, ils déboucheraient dans une cour que bordaient les chenils et les écuries. Des sentinelles patrouillaient sur le chemin de ronde en surplomb, au voisinage des salles de garde qui étaient ménagées dans les tours de l'enceinte. À moins de parvenir à se faufiler sans coup férir jusqu'à l'hôtel seigneurial pour en barricader la porte derrière eux, les attaquants se retrouveraient très vite en mauvaise posture. Du reste, même s'ils réussissaient à s'enfermer dans l'aile noble et à contenir la garnison à l'extérieur, il était également à craindre qu'ils se heurtassent à une farouche résistance à l'intérieur. La duchesse se trouvait toujours gardée par au moins un chevalier de son hôtel, et il fallait prévoir que d'autres combattants, peut-être mêlés à gants de verre en personne, fussent présents dans les murs. En outre, le chevalier Osépine jugea indispensable de mettre en garde ses compagnons contre une difficulté d'une autre nature. Le caractère labyrinthique de l'hôtel seigneurial. Immense, composite, agrégeant des salles et des tours dont les étages n'étaient pas toujours de plein pied, percé d'escaliers qui, pour être voisins, ne desservaient pas toujours les mêmes paliers. Il était facile de s'y égarer. Eddan, qui n'avait rendu qu'une fois visite à la duchesse en pleine nuit, craignait en outre de n'avoir pas un souvenir très précis de l'itinéraire qu'il avait suivi dans le bâtiment. L'architecture des lieux risquait de leur faire perdre un temps précieux. Au mépris de toute convenance, Kell intervint alors dans le conseil des chevaliers. « Moi, je m'y repère les yeux fermés dans l'hôtel seigneurial, » se vanta-t-il. Et comme Nem le rabrouait, le freluquet renchérit effrontément. « Qui est chargé de toutes les tâches domestiques ? Quel va puiser de l'eau ? Quelle corvée de bois ? Et les chevaux, Kell ? Ils ne se brossent pas tout seuls. Ce pichet est vide, Kell. Qu'est-ce que tu attends pour le remplir aux cuisines ? Je l'ai parcouru en tous sens, le castel du Fêtre. Emmenez-moi, et je vous y conduis tout droit chez la duchesse. » Les aventureux le considérèrent avec un intérêt amusé, mais le sire de Vaumacel n'avait pas le cœur à la plaisanterie. « Plus un mot, valet !» gronda-t-il. « Tu passes les bornes. »« Laissons pépier ce petit rebelle !» plaida cependant le chevalier au jet. « Nous pourrons juger de l'honnêteté de ses hâbleries, s'il peut décrire les plans du palais et de ses accès. » Le page ne se le fit pas dire deux fois, et sans attendre l'autorisation de son seigneur, détailla la distribution intérieure de l'hôtel seigneurel. D'une voix flûtée, il évoqua le perron et l'escalier de bois, l'entrée au premier étage, les trompe-l'œil, les colimaçons imbriqués, les galeries desservant les tours, et fit même un résumé du parcours à suivre pour atteindre la chambre du Vespellion. Tout au plus admit-il du bout des lèvres qu'il n'en avait pas franchi le seuil, par respect pour la haute dame, prétendit-il. Cela ne s'accordait guère avec le caractère impertinent du petit fouineur et laissait plutôt présager qu'il en avait été empêché par la présence d'un chevalier de l'hôtel. L'aperçu qu'il livra des appartements nobles n'en intéressa pas moins les aventureux. Et malgré qu'ils en eussent, le sire de Vaumacel et son écuyer reconnurent que la description faite par Kell était si précise qu'elle complétait leur souvenir de la configuration des lieux. Il serait dommage d'interdire à cet estafier de nous orienter, observa le chevalier Auget.
Sa place n'est certainement pas dans une affaire si périlleuse, protesta Edan.
Ce garçon est aguerri et m'a tout l'air d'être une tête brûlée, repartit le chevalier au pis. Pour un pareil coup d'audace, n'a-t-il point son rôle en notre compagnie?
Mirabilis avait suivi d'une oreille distraite tous ces conciliabules. Pour ce qu'il put en saisir, ils lui parurent aussi grotesques qu'insensés, car aucune des hypothèses formulées par l'épreux sur l'entrée secrète n'était exacte. Pis encore, les risques tout échafaudaient à présent un stratagème des plus usés pour tromper l'ennemi. L'un des aventureux, le haut seigneur Tigerned, se présenterait devant les portes du château et lancerait un défi dans les formes aux sbires de l'ordre des Dolans afin d'attirer l'attention sur sa personne. Il était convenu qu'il ferait diversion sitôt qu'on lui aurait envoyé la pie qui accompagnait son maître Hameline dans l'incursion à l'intérieur des murs. Non seulement Mirabilis jugeait cette ruse des plus courtes, mais il allait devoir souffrir l'agaçante présence du volatile avec interdiction de lui arracher les plumes. Tout cela ne fit que renforcer les réserves du matou à l'encontre de cette déplorable expédition. Avant même que d'être commencée, elle tournait déjà de travers. Quoique son perchoir entre des sacoches d'arçon, des boucliers houssés et même un petit coffre de voyage ne fût point confortable, en plus d'être désagréablement mobile, Mirabilis tâcha de se rouler en boule et fit mine de dormir du sommeil du juste. Il espérait pouvoir ainsi gagner un peu de temps en tablant sur la correction de ces gens qu'on disait bien élevés pour ne point être dérangés. Naturellement, il n'en fut rien. Cette tête de linotte d'elfe était pressée de se jeter dans la gueule du loup. Ils étaient tout aussi impatients de lancer le sortilège de la dame des futaies bleues. Ils justifiaient leur précipitation par le danger qu'il y aurait eu à laisser la revenante croître en pouvoir. Mais Mirabilis ne connaissait que trop bien ce genre d'énergumène. Les elfes qui quittaient les cinq vallées pour vagabonder en des terres mortelles avaient tous un grain de folie. Ces trois-là n'échappaient pas à la règle et se jetaient avec délice dans un horrible coupe-gorge, pour le seul plaisir de pouvoir en plaisanter plus tard dans les castels de Suélindon ou à la cour de Duirriguin. Du moins, ceux qui s'en tireraient vivants. Car les belles gens ont tendance à confondre l'immortalité avec l'invulnérabilité. Grave erreur, qui avait amené plus d'un étourdi à connaître une fin prématurée. Hélas, en dépit de son incommensurable sagesse, le maître du matou avait été de ses téméraires, et Mirabilis en voulut aux aventureux de lui avoir rappelé ce vieux chagrin. Du moins, le chat en avait-il tiré une amère leçon. En dépit de ses fugues chronovagues, il se savait parfaitement mortel. Et cette lucidité ne l'incitait guère à remettre les pattes dans la nécropole de verre. Ce fut le chevalier Auget qui se chargea de tirer le chat de son fin sommeil par d'insistantes cajoleries. Après avoir fait mine de ne rien entendre ni sentir, Mirabilis consentit à ouvrir un œil mécontent tout en fronçant son petit nez avec désapprobation, tandis que l'aventureux lui grattait le crâne entre les oreilles.
Le chevalier Auger n'était peut-être pas le plus fou des trois elfes, mais sa jeunesse en faisait assurément le plus inconscient. Dans un lointain passé, que le chat vagabond ne visitait plus par précaution et par tristesse, le matou se souvenait d'un gamin insupportable que son maître accueillait parfois avec une sérénité indulgente. Cadelin étant encore enfant au moment de la guerre des grands vassaux, il n'avait pu participer au combat comme l'avait fait Hameline. Cet assaut imbécile contre Vert et sa revenante était donc pour lui l'occasion de s'illustrer à l'instar de ses aînés, ce qui ne faisait qu'accroître son désir d'en découdre. Lorsque les câlineries du chevalier Auger devinrent vraiment insupportables, Mirabilis condescendit à descendre de son bagage en ignorant avec superbe le cheval de somme qui l'avait véhiculé jusqu'à Vert. Il s'écarta majestueusement des bêtes de monte, quoique sa queue battît d'irritation, puis commença une toilette minutieuse sous toutes les coutures. Il était hors de question de se lancer dans cette aventure déraisonnable avant d'afficher une mise irréprochable. D'ailleurs, la tentation était forte de se passer une patte sur l'oreille et de s'éclipser ni vu ni connu en des jours plus fastes. Seule la crainte d'indisposer la licendière retenait le matou. Mais il se jura bien que si un seul de ses chevaliers servants l'encourageait comme un vulgaire vautre, en lui chantant des couplets aussi dégradants que « Cherche, Mirabilis, cherche !» ou « Après, l'ami, après !» il filerait aussi sec avant-hier ou demain et laisserait les fâcheux se débrouiller tout seuls pour entrer dans cette forteresse. Toutefois, si casse-cou fussent-ils, les aventureux du bois Oiselet se distinguaient aussi par leur finesse. Nul ne donna au matou le prétexte qui lui aurait permis de se dérober. Au lieu de cela, Hameline rejoignit le chevalier Auger pour adresser quelques mots à leur guide. « Tu as mérité ta place dans l'action où nous allons risquer nos vies, » lui dit-il avec douceur. Parce qu'il t'a écarté de son voyage avec le prince Osirien, l'archimage a épargné ton existence au cours des guerres d'antan. Peut-être avait-il prescience du service que tu rendrais aujourd'hui? Saluons sa clairvoyance. Je suis fier de suivre son plus vieil ami. Mirabilis ne fut pas complètement dupe. Bien qu'il n'eût jamais développé un grand talent pour le calcul, il avait l'intuition qu'un matou dont la longévité avait été prorogée par des tripatouillages thaumaturgiques ne pouvait rivaliser en âge avec les hauts elfes jadis fréquentés par son maître. Il n'en fut pas moins sensible à la flatterie. Ce qui le toucha toutefois bien davantage que le compliment, ce fut la réelle tristesse qu'il surprit dans les yeux d'ambre de l'aventureux. À la différence de Cadelin, Hameline avait combattu pendant la guerre des grands vassaux. Il avait servi sous les ordres du prince Osirien, que conseillait l'archimage. Il avait même failli périr au cours de la bataille où le prince et son conseiller avaient trouvé la mort en affrontant un archonte. Malgré sa tête d'elfe, Hameline gardait encore au cœur l'amertume d'avoir survécu là où le brillant seigneur et le maître du savoir s'étaient sacrifiés. D'une certaine façon, il partageait la culpabilité que Mirabilis s'appliquait à oublier trop continûment pour que ce fût avec succès. Pendant un instant, l'elfe héroïque et le chat roublard se découvrirent la même mélancolie. Alors, non sans pousser un gros soupir, l'ancien familier du mage se résigna à faire ce qu'on attendait de lui. Le soleil brillait encore haut sur les maussades frondaisons de Vert. Les assaillants étaient prêts. Si le vieil écuyer du sire de Vaumacel ne cachait pas ses réticences, les aventureux se comportaient avec autant d'insouciance que s'ils se fussent apprêtés à entrer en lice dans un tournoi à armes courtoises. Seul le chevalier au coucou avait enfourché son destrier. Ses compagnons, quoiqu'ils fussent cuirassés, restèrent à pied. Ils saluèrent d'un air insouciant le haut seigneur qui se dévouait pour faire diversion. Pendant qu'il s'adressait ses politesses teintées de plaisanterie, Edan se fit apporter son bouclier par son page. L'écu déhoussé, le sire de Vaumacel et ses gens constatèrent que les armoiries en étaient redevenues presque uniformément blanches, à l'exception de leurs poignées d'épines. Cela frappa surtout l'écuyer, qui ne sut comment interpréter ce signe. Le chevalier, quant à lui, parut trouver une confirmation mystérieuse dans la restauration de ses couleurs. Il glissa alors quelques mots à son vieux valet d'armes que parvint à surprendre l'oreille indiscrète de Mirabilis.
« Quand nous serons dans la place, nous remplirons nos devoirs sans déroger au code de chevalerie. Si tu m'appuies, Nem, l'honneur sera sauf. »
Sans en comprendre toutes les implications, le matou devina Anguille sous roche dans cet aparté. Mais le sire de Vaumacel n'eut pas le loisir d'en dire plus. Les aventureux revenaient déjà à lui et le pressaient avec curiosité d'employer le charme de la Lysandière. Eddan sortit le minuscule flacon de son gantelet gauche et l'exposant aux yeux de ses frères d'armes, il en ôta le bouchon à résille d'argent. Après une pause un peu cérémonieuse, il inclina l'ampoule. Un filet de liquide transparent s'en déversa vers le sol entre les solerets des combattants. Le chevalier aux épines attendit quelques instants, qu'eussent chu les dernières gouttes. Le nez délicat de Mirabilis crut humer un effluve de sous-bois pluvieux, mais l'odeur se dissipa presque aussitôt. Il ne se produisit rien. Les chevaliers attendirent un court moment dans une expectative déconcertée. Le vieil écuyer fut le premier à réagir en haussant les épaules d'un air excédé. Le petit page arborait une mine déçue. Les quatre preux, quant à eux, semblaient partagés entre l'espérance et le ridicule. Quelle subtile magie ! Finit par commenter le chevalier Opi avec un sourire en coin. Elle s'est invisibilisée elle-même.
Est-ce que nous n'aurions pas dû dire une incantation pour cette occasion ? S'interrogea le chevalier au jet.
La dame ne m'a rien enseigné de tel,
répondit le sire de Vaumacel en considérant le flacon vide d'un air déconfit.
Elle m'a juste enjoint de verser l'élixir sur le sol, m'assurant que cela nous dissimulerait quelque temps.
Tentative réussie, plaisanta Sir Hamelin.
Peut-être est-il prévu dans le sort que nous puissions nous voir sans effort,
fit valoir le chevalier au coucou.
Il est vrai que cela nous ôte un problème, convint le chevalier au pis sur un ton pince sans rire. Gageons qu'il l'épargne aussi à tous les défenseurs de la garnison.
Le charme n'agit sans doute qu'au château,
insista le haut seigneur Tigerned.
Il serait sage de vérifier si ses alentours n'ont pas changé.
Sur sa suggestion, les gens de guerre s'avancèrent jusqu'à la percée où ils avaient découvert la forteresse. L'édifice leur opposa sa morgue gigantesque, tourelles, créneaux, ours et bretèches y étaient parfaitement visibles et offraient d'innombrables postes de guet depuis lesquels on aurait pu apercevoir les intrus. La vapeur froide soufflée par la chute d'eau était peut-être un peu plus dense, mais elle ne voilait en rien les perspectives des sentinelles. Les chevaliers durent se rendre à l'évidence. Une approche des remparts ne passerait pas inaperçue. Dégoûtés, mais aussi conforté dans son mauvais pressentiment, le vieil écuyer revint sur ses pas en grognant qu'il allait s'occuper des chevaux. Les aventureux, quant à eux, ne tarissaient pas sur ce tour imprévu. Il leur semblait inconcevable qu'un charme de la dame des futaies bleues pût échouer. Par politesse, ils n'insinuèrent plus que le sire de Vaumacel avait mal interprété les consignes qu'il avait reçues. Mais il était clair qu'il n'en pensait pas moins. Hamelin conclut avec légèreté que ce devait être une facétie ou une épreuve de l'enchanteresse. Des trois elfes, c'était le chevalier au coucou qui restait le plus perplexe.
« La dame n'est sûrement pas en défaut,
observa-t-il d'un air pensif.
J'ai senti dans ce filtre un pouvoir que j'ai presque pu apercevoir. Sa vertu est en train de se diffuser sous nos pieds, de façon clandestine, à travers le sol et les racines.
Les deux autres aventureux ne le contredirent point. Mais cela ne résolvait nullement leur problème. S'étant remis hors de vue des courtines, ils se mirent à débattre sur la conduite à suivre. Approcher du château à découvert était si inconsidéré que les elfes eux-mêmes en convinrent. Cela aurait ruiné tout effet de surprise. Demeurait la possibilité de tenter le coup de nuit. Le chevalier Hopi s'y montra fort réticent. Il craignait d'affronter la revenante dans des conditions trop défavorables. Les chevaliers soulevèrent différentes possibilités. Se faufiler dans la place à la faveur de l'obscurité, mais attendre le matin pour donner l'assaut à l'hôtel seigneurel. Ou mener toute l'opération à l'aube, en espérant toucher aux appartements de la duchesse avec les premiers rayons du soleil. Mirabilis, qui commençait à s'ennuyer, finit par grimper sur la branche maîtresse d'un arbre du haut de laquelle il suivit ses palabres d'une oreille de plus en plus distraite. Étalé sur son perchoir dans un équilibre acrobatique, la queue et les pattes pendantes, il faisait mine d'attendre avec une somnolente philosophie. D'un côté, il n'était pas mécontent de ce contretemps. Il caressait sans trop y croire l'espoir que l'opération allait finir en eau de boudin et qu'il pourrait s'y dérober sans démériter. D'un autre côté, cet ajournement l'horripilait. Il lui avait fallu de la volonté pour se décider. Il avait mobilisé tout son courage et condescendu à fournir un inestimable concours à l'expédition. Et voilà que l'attaque capotait. Tout serait à refaire, car il fallait bien admettre que ces paladins n'allaient pas se décourager pour si peu. C'était affreusement contrariant. Tant qu'à se précipiter bille en tête dans une souricière, autant le faire une bonne fois pour toutes, au lieu de renâcler devant l'obstacle et de devoir ensuite se remotiver. Tout en remuant ses pensées moroses, Mirabilis constata que l'atmosphère elle-même devenait chagrine. La lumière du soleil se voilait. Une buée translucide tombait des feuillages et rampait au pied des arbres. Décidément, tout allait de travers. Même le temps s'y mettait. La visibilité baissait. Bientôt, les frondaisons se fondirent dans la brume, tandis que les arbres à plus de 10 pas ne dessinaient plus que d'inconsistants portails. Interrompant ses compagnons qui débattaient sur les dangers de franchir de nuit la rivière aux abords des rapides, le chevalier au coucou s'écria « Quel saut nous faisons ! Le charme a fonctionné !» Les autres chevaliers en furent saisis. Tout à leur discussion, ils n'avaient pas prêté attention à la muette métamorphose du paysage, mais le brouillard les cernait de ses vapeurs. Les assaillants étaient devenus invisibles pour les postes de garde. Dès lors, les tergiversations prirent fin. Les 4 preux décidèrent de se mettre en marche. Le sire de Vaumacel envoya son page avertir son écuyer qui s'était fondu dans la brume avec les chevaux. Sur son arbre, Mirabilis bascula d'un mécontentement à l'autre. Après avoir regretté de ne pas s'être lancé dans l'aventure quand il s'y était résigné, voici que l'occasion espérée se présentait une fois sa résolution effilochée. Il n'était plus d'humeur, le moment était passé. Il espéra que son perchoir et le brouillard qui commençait à estomper les gens de guerre lui permettraient de rester inaperçu. Hélas, c'était sous-estimer la finesse des sens elfiques. Les regards d'Ameline et de Cadelin se levèrent presque simultanément vers lui tandis que la pie venait se percher quelques branches plus haut en jacassant de façon railleuse. Ulcéré, le matou dut se résoudre à rejoindre les preux. De crainte de se ridiculiser aux yeux du volatile, il ne put même pas simuler le vertige ou des difficultés à descendre le long du tronc. Du moins,
et rafla-t-il l'écorce de longues griffes qui signifiaient son déplaisir. À peine s'était-il reçu sur ses quatre pattes que le page émergeait, ramenant l'écuyer sur ses talons. Mirabilis constata que le vieux servant d'armes avait l'air aussi grognon que lui. Il en éprouva presque un mouvement de sympathie à son égard. C'était le seul être sensé au milieu de cette clique d'hurluberlus. Mais les aventureux pressaient déjà leur guide de se mettre en route, et après s'être fait un peu prier pour la forme, il fallut bien se plier aux consignes de la dame. Avec une récalcitrante lenteur, le matou partit en direction du château. Les gens de guerre et l'enfant lui emboîtèrent le pas à une allure de promenade. Le cliquetis étouffé des pièces d'armure des piétons et le martèlement des sabots du destrier hérissèrent Mirabilis, qui notifia sèchement son exaspération de la queue. Non mais vraiment, tenter une approche subreptice au milieu d'un tel tintamarre. D'autant que si le brouillard paraissait devenir de plus en plus épais, il portait les sons au loin avec une netteté redoutable. Malgré le grondement caverneux de la rivière engloutie dans son gouffre, la petite troupe entendait fort bien les rumeurs tombées de la forteresse. Bavardage presque audible, aboiement, tapotement caractéristique d'un maréchal ferrant en train de ferrer des chevaux, grincement de porte, fracas d'un chargement de bois déversé. Tout cela sonnait si clair dans l'atmosphère nébuleuse qu'on avait l'impression de marcher à 50 pas du rempart. Pourtant, les servants d'armes de l'enchanteresse accédaient seulement à la nécropole. L'atmosphère se faisait si opaque qu'il était difficile de se situer. Ils se rendirent compte qu'ils abordaient la cité funèbre quand la terre fut remplacée par du gravier sous les coussinets du chat et les semelles des combattants. Autour d'eux, des volumes géométriques substituèrent de vagues endentements aux épures de branchages dans la brume. Sans se donner la peine de jeter un coup d'œil en arrière, le matou pouvait sentir la tension qui gagnait les combattants. Or, c'était peut-être un peu prématuré. En fait, Mirabilis n'avait qu'une très vague notion de l'endroit où il se trouvait, et une idée encore plus nébuleuse de l'endroit qu'il devait dénicher. De fait, le détail qui avait retenu l'attention de la licendière quand elle avait parcouru sa mémoire n'avait pas spécialement marqué Mirabilis. Tout au plus se rappelait-il qu'il avait entrevu ce monument, du reste assez modeste, alors qu'il filait un dessicatorien qu'il n'aurait jamais dû suivre. Cela plaçait son objectif quelque part entre le château et les premières pentes des coteaux dans le labyrinthe que formait la cité funéraire. Non seulement son souvenir était imprécis, mais le brouillard lui compliquait singulièrement la tâche. Pas moyen de se situer d'après la forteresse ou la configuration du paysage. C'était à peine si le matou y voyait à portée de gambade. En d'autres circonstances, cela ne l'aurait point affecté outre mesure. Il savait également se repérer au nez, à l'oreille et à la moustache. Il suffisait de venir flairer l'un après l'autre le coin de tous les monuments qu'il croisait, et tôt ou tard, plutôt tard que tôt, en fait, il finirait par humer une odeur terreuse de mousse, un marquage éventé, ou l'esprit champignonneux d'un lichen qui le remettrait sur la bonne voie. Le déplaisant de l'affaire était cependant de traîner derrière soi 5 lourdauds cuirassés, dont un cavalier, et un freluquet excité. En d'autres circonstances, il leur aurait faussé compagnie pour un petit saut temporel qui lui aurait laissé le loisir de chercher à son aise. Puis il serait réapparu dans l'instant pour mener triomphalement les champions tout droit à destination. Malheureusement, sa confrontation avec le jeune Oran au fond des catacombes l'avait singulièrement refroidi. La nécromancie royale pouvait condenser de façon inquiétante les séquences chronologiques et figer le vagabond dans des impasses tout à fait funestes. Et puis, le chat chronovague ne tenait pas du tout à attirer de rechef l'attention des dessicatoriens par une démonstration de ses talents. Il se trouvait donc contraint de fureter avec une bande armée sur les Basques, fort contrarié d'impatienter les gens de guerre. Comme il tenait toutefois à sauver la face, il faisait passer ses incertitudes pour de la nonchalance et ralentissait la marche à dessein en frottant sa joue au degré et aux pierres d'angle des sépulcres. Non seulement cette flânerie lui prêtait une indolence suprêmement décontractée, mais elle s'avérait fort utile. Au moins l'odeur qu'il déposait sur les caveaux lui permettait d'éviter de tourner en rond. Mirabilis sentait bien la nervosité gagner les preux. À mesure qu'il s'enfonçait dans la nécropole, l'urbanisme fantomatique se faisait de plus en plus inquiétant. Au milieu des bâtiments indistincts et des portails entreaperçus, se dressaient régulièrement des formes menaçantes. Il s'agissait des statues funéraires dont le brouillard paraissait amplifier la taille et la présence. Le matou, qui n'était point trompé par leur odeur de vieilles pierres et de mousse, ne leur prêtait guère d'attention. Mais l'apparition de ces silhouettes spectrales se détachant des nuées crispait chaque fois les combattants. Si la finesse de son odorat dispensait le chat de ses alarmes, il n'en était pas rassuré pour autant, car son museau lui livrait d'autres effluves qui convoquaient de mauvais souvenirs. À peine décelable dans le bouquet de maçonnerie humide, de buis secs et de bronze verdi, Mirabilis saisissait de vagues émanations de fausses d'aisance, de vêtements sales et de chair froide, mêlées à un subtil arôme d'amande. Cela lui rappelait désagréablement certaines cryptes, et que ces miasmes fussent remontés jusqu'à la surface, le chiffonnait un tantinet. Cela faisait un moment que l'étrange équipage qui tenait plus de la procession d'aveugles que du cortège funèbre dérivait sur les talons du matou lorsque Mirabilis crut reconnaître des signes vaguement familiers. Ce que l'on aurait pu prendre pour les fûts d'une majestueuse colonnade qui se dégageait du brouillard avant d'y replonger au rythme de la marche était en fait une rangée de cyprès. Cela évoqua confusément quelque chose au petit rôdeur. Réminiscence confirmée par la découverte d'une allée en pente douce, étagée en degrés larges et peu élevés. L'intérêt éveillé, Mirabilis y entraîna son escorte paladine. Au bas d'une quinzaine de marches, un bâtiment massif parut venir à leur rencontre. Un vaste portail y bâillait sur une bouche de ténèbres. Le matou n'était plus qu'à quelques pas, quand enfin il put mieux en distinguer le détail. Le porche sculpté avait pour pilastre deux cariatides écorchées et un entablement en forme de cercueil. Mirabilis se figea aussitôt, ramassé sur lui-même et le poil dressé. Il venait de reconnaître ce lieu néfaste. Et ce n'était pas du tout l'endroit où il devait mener les chevaliers servants de l'enchanteresse. Piquetout, les deux vantaux d'airain, ornés de bas-reliefs de sablier, étaient largement ouverts sur l'obscurité des catacombes. Comme si l'on avait convié les visiteurs à franchir ce seuil pour rejoindre les cérémonies impies qui étaient célébrées dans les profondeurs. Mirabilis cracha un feulement épouvanté, et sans demander son reste, déguerpit ventre à terre. Il faillit s'aplatir contre les grèves du chevalier au pie, zigzaga entre celles des chevaliers aux jets et aux épines, fila entre les jambes du destrier du chevalier au coucou, et remonta dardard toute la rampe. Sa fuite fut si soudaine qu'il faillit semer la compagnie. Seul le page bondit derrière lui, en sautant avec un enthousiasme qui ne fit que renforcer l'affolement du chat. « Par ici, par ici !» criait le petit imbécile à destination de ses seigneurs, avec une voix si haut perchée qu'elle devait porter jusqu'au tour fêtière du château. Toute honte bue, le matou était en train de se carapater. C'était bien un tour d'elfe d'envoyer ses champions à l'assaut dans un brouillard à couper au couteau, au risque d'échouer dans le cœur maléfique de la nécropole. Hors de question que Mirabilis y remît une patte. Désormais, Il n'avait plus qu'une priorité, sauver sa jolie peau déchronologique en fuyant au plus tôt ce macabre chausse-trappe. Malheureusement, son naturel un peu paresseux ne lui avait guère donné d'endurance, et il eut vite le souffle court. Il s'arrêta un instant, se retournant pour rouler des yeux effarés sur le gamin qui ne se décidait pas à le lâcher, et repartit d'un bond en se battant les flancs. C'était bien joli de s'enfuir, mais il avait perdu tous ses repères et n'avait aucune idée de la direction dans laquelle il décampait. L'idée qu'il était peut-être en train de tourner en rond redoubla sa panique, au point qu'il s'apprêtait à faire demi-tour quand sa narine fut caressée par un fantôme de parfum. Quelque part dans la brume flottait une faible fragrance de rose. Or, cette odeur-là cadrait davantage avec ce qu'il cherchait. Par un coup de chance assez saugrenu, peut-être Mirabilis touchait-il au but. Sans dissiper complètement sa frousse, cela lui remit un peu les idées en place. Pour commencer, il fila se tapir derrière le soubassement d'un édicule. Le gamin exaspérant le suivit plein d'entrain, comme s'il se livrait à une sotte partie de cache-cache. Le matou s'en sentit si indisposé qu'il faillit perdre le subtil effluve floral. Pour corser le tout, ce maudit page continuait à appeler ses compagnons. On aurait cru que le drôle prenait plaisir à faire du bruit pour convoquer tous les périls de verre. Pourtant, quoiqu'il fût ténu et mêlé à des effluences de bois mort et de moisissure, le faible parfum chatouillait toujours l'odorat de Mirabilis. Humant le brouillard, le matou finit par repérer l'origine de cette senteur et repartit en rasant le sol le long des caveaux. Son nez délicat ne l'avait pas trompé. Entre d'imposants sépulcres, il finit par deviner un buisson épineux dans la brume. C'était un massif de vieux rosiers malades qui entourait une simple pierre tombale et une stèle des plus austères. Certains drageons de la charmille avait été brisé comme si un sanglier avait foncé dans les arbrisseaux, mais Mirabilis les reconnut cependant. C'était ce fourré qui avait arrêté l'attention de la dame des futaies bleues et auquel elle lui avait demandé de revenir. Il s'accroupit donc devant le massif en essayant de prendre un air assuré, comme s'il avait toujours su où il allait. Lorsque les chevaliers eurent rejoint le chat et son freluquet, les aventureux furent déconcertés de constater que le matou s'était arrêté dans une allée de la nécropole qui ne paraissait même pas jouxter la rivière. Le sire de Vaumacel, en revanche, eut tout de suite l'attention attirée par les rosiers.
« Voilà qui est singulier, » dit-il à mi-voix. « Ce ne pourrait quand même pas être... »
Son regard tomba ensuite sur les armoiries gravées dans la pierre. De saisissement, il devint fort pâle. Le blason avait pour meuble une rose pointée et tigée. Aux 5 épines qui défendaient la fleur, s'en ajoutaient 2 qui hérissaient la tige. « Il y a une inscription sur le tombeau !» s'écria le page avec entrain. Et sans solliciter avis ni autorisation, il foula la dalle funéraire et déchiffra l'épitaphe. Sigira par 3 fois, Edan Chevalier de Vaumacel. L'étrangeté de cette épigraphe frappa d'étonnement les combattants. La mine incrédule, le vieil écuyer écarta le petit varlet et se pencha sur les lettres gravées. Les sourcils arqués par la surprise, il ne put que se rendre à l'évidence.
« C'est bien ce qui est écrit, »
confirma-t-il. L'inscription était ancienne, à en juger par l'usure des caractères et les lichens qui la tachetaient. « Sire Edan, vous m'aviez dit qu'il existait une tombe à votre nom, » dit songeusement le chevalier au pis. La voici à l'évidence.
Le frère Hummel m'avait parlé d'un tombeau à mes armes,
rien qui mentionnât mon nom, répondit Edan d'une voix blanche. Mais il avait aussi évoqué un vieux rosier. Il est probable qu'il s'agit bien du monument auquel il faisait allusion.
Aucun des elfes ne se méprit sur l'identité réelle du défunt ermite. Après tout, n'avait-il pas involontairement guidé le sire de Vaumacel vers les ruines de ce Nantes? Le vieil écuyer leur jeta un regard où la suspicion le disputait à l'effarement.
Ainsi donc cette boucle est bouclée, conclut tranquillement le chevalier au coucou.
Les deux autres aventureux vinrent se camper au pied du sépulcre en le considérant avec curiosité.
Voici un message des plus singuliers, observa Sir Hamelin. Je ne sais ce que j'en pense.
S'agirait-il du passage dérobé?
Ouvrons cette tombe
et nous verrons, proposa tranquillement le chevalier au jet. L'initiative arracha une grimace au vieil écuyer. Violer une sépulture au beau milieu d'un bosquet du desséché, protesta-t-il. C'est joindre l'imprudence à l'impiété.
S'agit-il seulement d'un tombeau? S'interrogea le sire de Vaumacel, d'un air troublé. Ce monument en a la forme, mais l'épitaphe laisse supposer qu'il est vide.
L'épitaphe a tout d'un mauvais sort, maugréa son valet d'armes. Si vous m'en croyez, n'y touchez surtout pas. Et puis, de toute façon, nous sommes toujours sur la rive. Je doute qu'un passage secret s'enfile sous la rivière pour nous permettre d'accéder à la place forte.
Et pourquoi pas?
S'enflamma le page.
Au château, on nous a dit qu'il y avait plein de souterrains, les Luiselles, qui communiquent avec les catacombes. Peut-être que cette tombe nous permettra d'y descendre.
Le chevalier aux épines jeta un bref coup d'œil à Mirabilis, comme pour s'assurer que le chat les avait bien menés à destination. Le matou, soulagé d'être tombé par hasard sur son objectif, et par ailleurs assez pressé de vider les lieux, fixait avec obstination les vieux rosiers.
« Voyons un peu »,
se décida le sire de Vaumacel en affichant un air sombre. Comme la sépulture était à son nom, il prit les devants. Du pied, il écarta quelques feuilles mortes qui couvraient la jointure entre la dalle funéraire et sa semelle maçonnée. Par endroits, des fissures dans le mortier auraient permis d'y insérer une lame, mais les épées auraient cassé si elles avaient fait office de levier. Au lieu de cela, le chevalier réclama la hache de son écuyer. Il en utilisa le bec pour agrandir l'espace entre la plaque et le soubassement, puis y introduisit le talon métallique du manche. Ses premières pesées sur l'arme ne donnèrent aucun résultat. Et puis soudain, dans un craquement caverneux, la pierre tombale se souleva légèrement de biais. Les aventureux et le page se précipitèrent pour agripper du bout des doigts l'angle qui saillait et tirèrent de toute leur force. Dans un grondement de meule, la dalle se souleva davantage, ouvrant une gueule rectangulaire qui expira une haleine de cave. Des gravats ricochèrent sourdement au fond de la fosse. Un dernier effort permit de soulever la plaque à la verticale, comme une vulgaire trappe, sur le côté de la cavité. Au pied des profanateurs s'abîmait un caveau étroit. Il ne contenait ni cercueil ni corps, mais une roide enfilade de marches qui dégringolait dans l'obscurité. Elle disparaissait sous un porche surbaissé, dont le chambranle était gravé d'une tête de cerf aux yeux de chat.
« C'est le grotesque de verre !» s'écria le petit page.
« Corps de roi !»
grommela l'écuyer.
« Il y a du maléfice dans l'air. »
« En tout cas, nous voici à pied d'œuvre, »
soupira le chevalier aux épines.
« La dame ne nous a point trompés. »